Bonjour à tous. Quelle Algérie après Bouteflika? Au lendemain du premier tour de la présidentielle, rendez-vous à 12h55 avec l'historien Benjamin Stora. Entre crise, révolution et élection, comment raconter l'Algérie d'aujourd'hui? Le regard de l'actuel président du conseil d'orientation du musée de l'immigration à Paris. Mais d'abord, les adieux à la scène d'un des plus grands noms de la danse européenne. Heureusement, il restera chorégraphe. Akram Khan est actuellement sur la scène de la Grande Halle de la Villette à Paris jusqu'au 22 décembre pour son dernier solo, Xénos, et une monographie sur lui, sur sa vie, son parcours à paraître, La Fureur du Beau. Il est pour l'heure notre invité, invité de la Grande Table sur France Culture, à écouter tout de suite, ou plus tard si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Jesbert.
Accompagné sur scène de 5 musiciens, une guirlande de grelots autour de la cheville, à 45 ans, il danse son dernier solo avec cette grâce folle qu'on lui connaît et cette force. Bonjour Akram Khan.
Ah, et bonjour.
Bonjour et bonjour à votre voix française. Pascal Fougère, bonjour.
Bonjour.
C'est votre corps qui vous dit d'arrêter aujourd'hui, Akram Khan?
Yes, kind of.
Oui, je dirais en quelque sorte, oui.
I'm 45 actually.
J'ai 45 ans, oui.
More than that, it was my
Mais plus que ça, je crois que c'est mes enfants, en fait.
Two small children.
J'ai deux enfants qui sont très jeunes.
Un
4 ans, l'autre 6 ans. Et franchement, ça me manque de ne pas pouvoir être un père.
So, I want to spend more time in London.
J'ai envie de passer davantage de temps à Londres.
Et pour ça, il faut arrêter la danse. Sacrifier la danse. C'est pourtant avec elle que vous vous êtes rencontrés, vous-même. C'est la danse qui vous a tout appris, c'est la danse qui vous a fait. Vous êtes prêt aujourd'hui à la mettre de côté?
It's true.
Ce que vous dites est vrai, c'est vrai que la danse m'a façonné, qu'elle m'a donné une expérience de vie à laquelle je n'aurais même pas pu rêver. Ça a été ma manière de m'exprimer, ma voix. Et je dirais que je me suis trouvée lorsque j'ai gagné en fait un concours de disco à l'école. Et j'ai réalisé que c'était la première fois en fait que j'étais vraiment moi-même, que je me rencontrais moi-même. J'avais 10 ou 11 ans, je crois.
Mais
je crois qu'aujourd'hui, je suis prêt, j'ai le sentiment d'être préparé à danser à travers le corps d'autres danseurs.
Yeah, I love working with classical ballet
dancers. J'adore travailler avec des danseurs classiques,
but also traditional
dancers, mais aussi avec des danseurs traditionnels de différentes cultures, de différentes formations.
Vous dites souvent à Akram Khan préférer écouter que parler. Comment avez-vous appris à entendre ce que votre corps avait à vous dire? Est-ce que c'est à travers cette danse traditionnelle, indienne, que vous avez aussi amplement modernisé, on va y revenir, le Kathak. Est-ce qu'elle est devenue votre seconde langue?
Well, yes, I think tradition played a huge part in the way I approach.
Oui, je pense que la tradition a joué un rôle très important dans la manière dont je me suis approprié la formation et l'apprentissage à la danse, l'entraînement
via
une relation gourou-élève, maître-élève.
And I miss that a little bit now.
Et c'est quelque chose qui aujourd'hui me manque, je crois, cette relation, parce que lorsque j'étais étudiante, je n'avais pas le droit à la parole, je ne pouvais pas m'exprimer. Qui est, je crois, d'une certaine manière, plutôt opposé au mode de pensée occidental. C'est plutôt un mode de pensée oriental. Dans l'Occident, vous devez dire ce que vous pensez. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que tout le monde parle et que, d'une certaine manière, le monde parle et qu'il n'écoute plus.
Et
il y a quelque chose qui, je crois, est très important dans l'art de l'écoute.
Because when you listen,
car quand on écoute, peut-être que ensuite vous aurez quelque chose à dire, quelque chose de plus profond.
Il s'est crispé votre corps cette nuit en écoutant, en entendant les résultats de l'élection législative au Royaume-Uni qui donne une victoire écrasante aux conservateurs de Boris Johnson.
Not just my body, I think psychologically my mind,
pas everything. Seulement mon corps, je crois que
I was not surprised.
It feels very surpris.
It feels very calculated.
Ça semble être quelque chose de très calculé, ce qui se passe actuellement dans le monde.
It's the first time I feel that.
Et c'est la première fois que
London, that has been my home.
J'ai le sentiment que Londres, qui a été mon chez-moi, je ne pouvais jamais m'imaginer comme ne pouvant pas être un Londonien, mais aujourd'hui je me sens un peu plus comme un étranger. Effectivement, je me sens un xénos, ce qui veut dire en grec un étranger.
Et
je crois que je ne suis pas le seul, je crois que le monde entier ressent ça actuellement. On est tous, d'une certaine manière, des étrangers à nos gouvernements. Et d'une certaine manière, nos gouvernements ne représentent plus les gens, le peuple, ils représentent les grosses entreprises et les gens qui ont du pouvoir, les puissants.
Qu'est-ce qui vous est si étranger dans ce monde ?
I think, you know, I when I was a young teenager, I remember working in my dad's restaurant and experiencing racism.
Je me souviens d'avoir travaillé dans le restaurant de mon père et avoir connu l'expérience du racisme de la part de blancs qui venaient au restaurant en étant alcoolisés. Et puis, à la fin des années 90, au début des années 2000, les choses ont commencé à changer. Mais d'une certaine manière, je crois que l'erreur que nous avons faite, c'est de penser que ça avait disparu des attitudes comme celle-ci.
Avoir
peur de l'autre ou être xénophobe, c'est quelque chose qui n'a jamais disparu en fait. C'est quelque chose qui a toujours été là. La seule différence, c'est que aujourd'hui, ces ressentis-là, ces idées-là ont eu une plateforme qui leur a été donnée.
What do I do? London is my home, but
qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire Londres, c'est ma ville, c'est mon chez-moi, mais j'ai le sentiment que peut-être le gouvernement
support or respect the values that we share, that I share.
Soutient plus ou ne respecte plus les valeurs qui sont les miennes et que nous partageons à propos de l'intégration, à propos de l'empathie, de l'écoute.
Qu'est-ce qui est arrivé à ce pays, votre pays, depuis notamment la si belle et fraternelle cérémonie des Jeux Olympiques de Londres, orchestrée par Danny Boyle et à laquelle vous avez collaboré pour la partie chorégraphique en 2012, cette Angleterre plurielle qui s'était fédérée devant ces images, est-ce qu'elle s'est évaporée ou est-ce qu'à ce moment-là déjà on était dans la fiction pour vous?
I think I can't answer that. I think because I'm so in shock.
Parce que je crois que je suis tellement choquée.
But I wonder if Danny Boyle was asked to make.
Je me demande si Danny Boyle était aujourd'hui chargé d'organiser la cérémonie pour les Jeux Olympiques. En fait, ce serait sans doute un récit totalement différent. D'ailleurs, il n'accepterait probablement pas de le faire. Et la cérémonie que Danny Boyle a fait, c'était vraiment une magnifique cérémonie sur l'intégration des gens. C'était une célébration des gens, de tous les gens.
So yes, it's a different narrative.
Et je pense qu'aujourd'hui, l'histoire, le récit est différent.
Vos parents sont venus du Bangladesh, à Akram Khan. Vous êtes né à Wimbledon, quartier du sud-ouest de Londres. Vous êtes un enfant de cette double culture et peut-être même de cette triple culture, puisqu'aujourd'hui vous êtes marié avec une japonaise, votre femme, danseuse. Vous n'avez cessé de travailler, d'essayer de comprendre à travers la danse ce qui se jouait dans vos origines, en quoi, quelle part elles avaient et comment elles vous complétaient. On pense bien sûr à votre premier solo, Desh, Terre natale en français, qui n'a cessé d'être repris depuis et qui ne l'a pas vu, n'a rien vu. Anish Kapoor, c'est un plasticien avec lequel vous avez collaboré régulièrement et avec lequel vous partagez cette double identité, cette double culture. Écoutez ce qu'il disait à propos de ce sentiment d'étrangeté que vous évoquiez.
L'identité, pour moi, est une chose bien étrange. Entre ces majdaïtés, le côté indien, le côté britannique, tout se mélange. C'est aussi finalement la condition de tout artiste. d'être toujours un outsider, quelqu'un qui vient du dehors.
As an artist, I've always
en tant qu'artiste, je m'ai toujours battu avec l'idée que mon côté indien, que mes racines indiennes jouent un rôle fort dans mon travail, mais c'est un fait.
I think artists don't make
je crois
objects.
Que les artistes ne produisent pas des objets. Ils produisent des propositions mythologiques.
And inevitably culture
et donc de la culture,
plays,
inévitablement. La culture que vous avez en vous joue un rôle. La
exotic.
Question, c'est de savoir ne pas en faire quelque chose d'exotique.
Vous êtes d'accord avec Anish Kapoor, Akram Khan, la condition de tout artiste est d'être quelqu'un qui vient du dehors.
I agree with it. Yes, it's hard to disagree with Anish Kapoor. He's really a very wise man and a very, very wise artist.
Un artiste très sage également.
I think I have to be very clear that it is not an artist's role to be to save the world.
Il faut être très clair là-dessus. C'est pas le rôle de l'artiste de sauver le monde.
It is not our job to save the world. The politicians are there to do that.
Les politiciens sont là pour faire ça.
And should be doing that.
Et devraient le faire.
And in a sense, what artists can do
is ce que les artistes peuvent faire, c'est refléter le monde. C'est montrer aux gens à travers un objectif très particulier ce qu'est le monde.
And in a sense, that's what I'm doing.
Et d'une certaine manière, c'est ce que je fais. J'essaye.
I don't try, it just happens.
J'essaye pas. Je dirais, ça se passe. J'ai fait cette pièce qui s'appelait Outwitting the Devil, qui a été présentée au Festival d'Avignon et à Paris en septembre. Et c'était une pièce qui était pleine de colère. Hein, et ça parlait de l'être humain contre la nature. Et maintenant, je fais Xenos à la Villette, hein, qui co-programme avec le Théâtre de la Ville. Et ça a à voir avec les soldats indiens qui ont été rayés de l'histoire. Ces soldats venus des colonies. Hein, parce que, évidemment, l'histoire a été écrite par les Blancs. Et donc, je m'interroge sur comment nous pouvons aller vers l'avenir de manière pleine de confiance si on n'a pas un récit complet et de notre passé, si on ne nous donne qu'une partie de cette histoire, un côté. J'ai un vrai problème avec le mot histoire. Pourquoi est-ce que on n'appelle pas ça our story and not his story, le jeu de mots qui serait son histoire et qui se traduit pas en français his pour son et our pour leur, notre histoire.
Et pourquoi? Oui. C'est justement ce dont souffre ce soldat indien de l'armée britannique que vous incarnez dans Xenos, à l'image de ces sepoys dans les champs de mines et dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Il souffre d'être des hommes aujourd'hui sans histoire, c'est-à-dire sans mémoire.
Yes, absolutely.
Oui, c'est tout à fait ça.
You know, the Indian colonial soldiers were fighting a war, a foreign war for the British Empire, with promises that they would receive some gifts after.
Se battaient pour une guerre qui leur était étrangère, mais on leur avait promis qu'ils auraient quelque chose après.
In the end, they went to war very naïvement.
Donc, ces Indiens se sont rendus à la guerre très naïvement, comme tous les soldats d'ailleurs britanniques pour la Première Guerre mondiale, parce que c'était la Première Guerre mondiale. Personne n'avait encore expérimenté une guerre mondiale.
Mais
ce qui vraiment me peine, j'avais jamais su qu'il y avait 4 millions de soldats qui venaient des colonies qui s'étaient battus pendant cette guerre mondiale. Ruth Little, qui est ma dramaturge, et tous les collaborateurs ont commencé à rechercher dans les archives pour essayer de retrouver en fait combien de soldats qui venaient de l'Inde comme colonie s'étaient battus pendant la Première Guerre mondiale. C'est 4 millions 4. Et donc on a essayé de raconter l'histoire de ces gens-là parce que sinon ils vont disparaître. Mais je dirais que d'une certaine manière, nous souffrons en fait d'une démence mondialisée. On a oublié les horreurs du passé, c'est des choses qu'on oublie très très rapidement. Et je pense qu'il faut se souvenir
of what it means to be human,
de ce que ça signifie d'être humain.
And what war can do to human beings.
Également ce que la guerre peut faire aux êtres humains.
Ces soldats indiens, ces 4 millions de soldats, ils n'étaient pas dans vos livres d'histoire quand vous étiez sur les bancs des écoles anglaises. Peut-être qu'ils ne sont pas plus d'ailleurs dans les livres d'histoire des écoles indiennes aujourd'hui.
Yeah, maybe. Maybe I'm not sure. That's
oui,
a good question.
C'est possible. Hein. C'est une really know, bonne question. Je sais pas. Il faut que je cherche.
Pourquoi mettre en scène aujourd'hui l'histoire de cet homme que vous incarnez, qui est totalement à bout de souffle? Pourquoi avoir voulu montrer ce que la guerre fait au corps et ce qu'elle fait à l'esprit, c'est-à-dire la folie, c'est-à-dire l'aliénation, pour interroger le sens de la guerre, qui est par essence un non-sens? Pour qui cette guerre? Au nom de quoi fait-on la guerre?
No, for me it's about
désir ou mon but est de faire ressentir une empathie au public.
To see the story from the other side, you know.
Que il voit l'histoire de l'autre côté.
When my daughter was born in 2013.
Vous savez quand ma fille est née en 2013.
Up till that moment.
Jusqu'alors, j'avais
a male perspective.
Toujours
not
vu le monde d'une perspective masculine.
So
alors, pas à 100% masculine, parce que ma mère était une féministe convaincue.
Mais
je dirais que je faisais mien ce récit qui allait être celui donné à ma sœur, c'est-à-dire cette espèce de mythe que ma fille allait hériter. Et tous ces mythes étaient d'une perspective masculine. Parce qu'évidemment, les mythes ont été écrits par les hommes.
And that's a huge problem.
Et c'est un gros problème.
That is the biggest problem.
Je crois que c'est le problème le plus important.
Et Xénos est une réinterprétation d'un mythe. C'est une réinterprétation du mythe de Prométhée. Hein.
Yes, originally Prometheus was the center point.
Oui, à l'origine, Prométhée était le point central, le centre du travail.
But other things in the world became more urgent.
Mais d'autres choses, en fait, dans le monde, sont devenues beaucoup plus importantes, beaucoup plus urgentes.
And because in 2004, between 2014 and 2018,
it was the centenary of the First World War. 2018, c'était le centenaire de la Première Guerre mondiale.
A lot of artists were being commissioned to make work.
Beaucoup d'artistes, en fait, se sont vus confier la possibilité de faire des œuvres qui proposaient de réfléchir à cette guerre.
So I was invited to.
Et donc, on m'a invité à faire quelque chose sur la Première Guerre mondiale.
Et
donc, mes collaborateurs étaient déchirés entre Prométhée et l'histoire de soldats qui venaient des Indes.
Mais
ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de Prométhée est devenue, en fait, quelque chose de métaphorique, en fait, hein, pour cette histoire des soldats. Donc, c'est rentré, en fait, dans le sang de ces soldats.
Parce que Prométhée,
il avait vraiment de l'empathie et de l'amour, en fait, pour le genre humain, hein, à l'inverse de Zeus.
He saw their fragility
et
and their complexity,
il voyait leur fragilité, leur complexité
special,
à ces hommes. Et il voyait ça comme quelque chose de très particulier, pas du tout une faiblesse.
Et Prométhée est déjà construit sur ce tiraillement intérieur, sur ce paradoxe, cette ambiguïté. Et il montre à travers son attachement pour la vie humaine et le genre humain aussi, que l'homme a une part de bien en lui et une part de mal. C'est aussi un mythe qui est une leçon d'humilité d'une certaine manière. Outwitting the Devil, vous évoquiez votre dernière création juste avant celle-ci, juste avant Xénos, Akram Khan. Est-ce que vous avez dupé le petit diable qui est en vous? Si on a tous au fond de nous du bien et du mal, un ange et un diable, est-ce que votre petit diable, avec les années, vous l'avez dupé?
Yeah. I think devil is for me mankind.
Oui, je pense que de toute façon, d'une certaine manière,
the devil in the mankind.
Dans l'être humain, il y a effectivement l'ange et le diable. Mais je crois que je souhaite faire très attention parce que dans la pensée occidentale, dans la littérature occidentale, on a le bon et le mauvais.
We have angel and we have the devil.
On a l'ange et le diable.
We have black and white.
On a le noir et le blanc.
Most narratives are written
et
in those
la
two
plupart des histoires,
directions.
En fait, hein, sont écrites avec ces deux côtés.
What I love about Greek mythology,
et moi, ce que j'aime dans la mythologie grecque,
about Indian mythology,
et particulièrement aussi dans la mythologie indienne, c'est qu'à l'intérieur du bon, il y a du mal, du
within
mauvais.
The bad, hein, there is good.
Et qu'il y a du bon aussi, évidemment, à l'inverse, dans le mal et dans le mauvais.
And that is more honest
et
and
je trouve que c'est plus honnête, plus direct par rapport à ce qu'est la condition humaine.
It's very easy to call Trump bad.
C'est très facile en fait hein, de dire ça c'est mal.
It's very easy to call us good.
Et c'est très facile de dire nous sommes bons.
But I want to be careful of
Mais
the Facebook syndrome.
Je veux vraiment faire très très attention au syndrome Facebook.
Because there's only likes.
Parce que voilà, il y a seulement des likes et des dislikes. Des je n'aime pas. Hein. Juste ces deux possibilités qui vont déterminer la relation entre deux personnes.
What's happening is we're simplifying.
Ce qui veut dire que on simplifie les choses au point où les choses ne sont plus réelles. Elles sont virtuelle.
Hein?
On ne peut pas décrire une relation humaine avec un pouce en hauteur disant j'aime ou un pouce en bas disant je n'aime pas.
Hein?
Et c'est pour ça que je reviens sans cesse à la mythologie.
Le Lacrimosa du Requiem de Mozart dans une nouvelle version signée du compositeur Vincenzo Lamagna et qu'on peut entendre dans votre pièce, dans ce ballet que vous avez chorégraphié à Akram Khan, à voir actuellement à la Grande Halle de la Villette. C'est donc une musique originale. Vous vous êtes fait connaître à Akram Khan avec le Mahar Bharata de Peter Brook. Vous êtes parti en tournée avec lui, vous aviez alors seulement 13 ans, avant de prendre votre propre envol et de créer votre compagnie entre 20 et 30 ans, la Kram Kam Company. Vous allez arrêter de danser, c'est donc un solo pour dire au revoir qui se joue en ce moment à la Villette à Paris. Mais vous n'arrêterez pas la chorégraphie, on espère, on imagine. Je vous propose d'écouter les mots d'Anne-Thérèse de Kersmaeker que vous avez connue puisque vous avez achevé votre formation dans son école. Une expérience qui a dû beaucoup contribuer à votre vision de la danse aujourd'hui. Écoutez comment elle définit la pratique de la chorégraphie.
J'ai essayé d'ordonner 5 définitions possibles de ce que c'est pour moi chorégraphier. Et puis ensuite, de quelque part, articuler qui sont mes partenaires. Chorégraphier, ça peut être incarner une abstraction, organiser des mouvements dans le temps et dans l'espace. C'est défier la gravité, c'est sauter et tourner, c'est peut-être la définition la dernière, la plus grande, éloquente. C'est quelque part célébrer notre humanité. Et mes partenaires sont la musique, les danseurs et la nature.
Vous avez, vous, inventé à Kram Kam une danse qui est la vôtre à partir du Kathak, cette danse traditionnelle indienne qu'on évoquait, de ces mouvements-là et d'un vocabulaire beaucoup plus contemporain. Vos pieds, et on le voit dans Xénos, restent ancrés dans le sol. Quelle est pour vous votre philosophie de la danse? Est-ce que vous gardez de cette définition d'Anne-Thérèse de Kersmaeker surtout l'envie de défier la gravité?
Well, Anne-Thérèse is an incredible choreographer, an artist.
Anne-Thérèse Kersmaeker, c'est une chorégraphe incroyable, c'est une artiste incroyable.
Something that I've observed from
c'est quelqu'un que j'ai observé I think, dans mon jeune âge.
I agree with her in relation to the music
je crois
and nature,
que je suis d'accord avec elle en ce qui concerne la relation avec la musique et la nature.
But I could not describe how to choreograph.
Mais je ne pourrais pas décrire
and
en
I
fait
cannot describe
ce
choreography because I'm not analytical by nature.
Ce qu'est chorégraphier ou décrire la chorégraphie, parce que je ne suis pas analytique par nature. J'envie et j'admire ce processus analytique qui m'a inspiré, bien sûr, celui d'Anne-Thérèse. Mais mon approche à moi est très instinctive. Donc, quand quelqu'un me demande comment j'ai fait le travail, je ne m'en souviens pas vraiment. Et je n'ai pas non plus de formule. Parce que, généralement, lorsque je rentre sur le plateau,
except my body.
Je n'ai rien d'autre que mon corps.
And I allow my body to speak, not my mind.
Je laisse mon corps parler, pas mon esprit.
My brain comes into action only after.
Et mon cerveau ne commence à agir
when I'm reflecting
ensuite,
on
lorsque
what I've made.
Je réfléchis, lorsque je pense à ce que j'ai fait.
But I do have amazing collaborators who do the analytical preparation with me.
J'ai des collaborateurs qui m'aident dans le processus de l'analytique au moment de la préparation ou un peu plus tard encore.
And it's not one is better than the other. It's just very
ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. C'est juste deux approches très différentes.
Akram Khan, merci beaucoup.
Merci.
Et merci à votre traductrice hors pair. Merci Pascal Fougère d'avoir été avec nous. Merci à tous les deux. Je rappelle donc que votre Xénos est à voir en ce moment avant une tournée en France à la Grande Halle de la Villette jusqu'au 22 décembre.